Les quartiers prioritaires, etc., les employeurs, ça les rebute.
Moi, je trouve que les jeunes comme nous, on a beaucoup plus de mal à trouver d'emploi que d'autres personnes.
C'est-à-dire les jeunes comme nous?
Ah, des jeunes de quartier, des jeunes maghrébins, des jeunes noirs.
Quand on n'a rien à mettre sur un CV ou très peu de choses, et puis qu'on vient d'un quartier prioritaire, ça peut rebuter un petit peu.
On fait comme tout le monde, mais sauf que pour nous, ça marche pas.
Bonjour à tous. Même s'il n'existe pas de données précises, il est une évidence de dire qu'un CV ne connaît pas le même destin en fonction du nom et de l'adresse de son auteur. La discrimination à l'embauche, si difficile à quantifier, mais il suffit de souligner le nombre de dispositifs proposés ces dernières années pour comprendre qu'il s'agit bien d'un poison sournois de nos sociétés. Pour tenter d'y remédier, Emmanuel Macron va remettre au goût du jour les emplois francs. Ce terme n'est pas complètement inconnu. François Hollande a en son temps utilisé brièvement ce mécanisme. En résumé, une entreprise, où qu'elle soit située sur le territoire, touche une prime si elle embauche un habitant des quartiers sensibles. Un habitant et non un jeune de ces quartiers, car c'est là toute la nouveauté. Il n'y a pas de condition d'âge ou de niveau de formation. Aucune restriction, contrairement à la première mouture de ces emplois francs. Même si le gouvernement ne prononce pas l'expression peut-être trop clivante, il s'agit de fait d'une mesure de discrimination positive. Mais toute la question est de savoir si la saison 2 des emplois francs sera à la hauteur des attentes. D'ici 2 ans, tous les quartiers sensibles du pays seront concernés, mais les premières expérimentations commencent dès ce mois-ci pour en finir avec le fardeau du CV dans les banlieues. C'est un reportage de Claire Chaudière.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Alors là, on est dans le cœur des Fosséjans, on va dire. Et c'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous à Leclerc. C'est le cœur, en fait, ici, de ce quartier-là. Et c'est là où on se retrouve tous. Quand on va dans le supermarché, on rencontre tout le monde, nos voisins. Moi, j'habitais ici avant. Et maintenant,
dans la tour qui est juste derrière nous.
Voilà, dans la grande tour. Et maintenant, j'habite dans le quartier qui est là-bas. Ça s'appelle le quartier d'Orgemont. Là, on entend bien les travaux.
Vous y êtes attaché, vous, à votre quartier?
Oui.
Un endroit,
Oui, ça fait 24 ans que je suis ici. Et j'ai passé toute ma scolarité ici, dans le quartier. J'ai fait l'école maternelle, primaire. J'ai fait aussi le collège du secteur. Et le lycée aussi de secteur.
Des pelleteuses, des grues et des montagnes de gravats, le quartier très populaire des Fosséjans à Colombes dans les Hauts-de-Seine est en train de changer de visage. Entre l'autoroute A86 et le terminus de la ligne 13 du métro à Asnières se dresse l'immense tour Z où a grandi Samia Elbouch. Bonne élève, motivée, Samia a suivi une filière scientifique. Malgré son cursus universitaire, cette jeune femme n'a pas pour le moment trouvé d'emploi correspondant à son niveau de formation. Elle en est aujourd'hui réduite à donner quelques heures de cours à 2 heures de chez elle.
J'ai fait une licence en chimie et après le master. À la fin de ma licence, j'ai pu voir à peu près où je pouvais m'orienter. Et je me suis orientée directement en ingénierie chimique. Tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité, environnement. Parce que c'est un domaine important dans chaque entreprise, dans chaque usine. On a besoin d'un pôle qualité, d'un pôle environnement. Et je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de débouchés. Donc pourquoi pas se spécialiser dans ça.
Après ce bac plus 5, vous avez commencé à chercher un travail, c'est ça?
C'est ça, j'ai commencé à chercher du travail. Et ça a été plus compliqué que je ne pensais.
Vous avez fait beaucoup de candidatures?
Oui, j'en ai fait beaucoup.
Combien?
Je pourrais même pas compter parce que c'était pendant une longue période et au moins 10 candidatures par jour et jusqu'à arriver à un moment donné où j'avais plus envie en fait. Ça démoralisait parce que quand on s'investit dans nos études, on fait quand même un bac plus 5. C'est 5 années après le bac, on est diplômé à 23 ans, 24 ans et quand on voit qu'à la fin, on n'a rien, c'est dur en fait.
À votre avis, pourquoi ça n'a pas marché?
Moi, je me suis toujours mis en cause, je me suis toujours dit, c'est de ma faute. J'ai mal postulé, j'ai mal formulé une phrase, ou peut-être pendant les entretiens, j'ai pas été professionnelle. Mais il y a eu un moment donné où je me suis dit, il y a un réel problème. C'est quoi le problème? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de préjugés. Il y a aussi des discriminations de couleur, des discriminations liées aux origines. lié à la religion, lié au sexe.
Est-ce qu'il y a des moments où on est en colère ?
En fait, on est plutôt triste et ensuite notre tristesse, elle se transforme en colère. Et cette colère-là, on ne peut pas l'exprimer. C'est la faute à qui ? Ben, on ne sait pas. On se dit que c'est vraiment nous le problème ou c'est peut-être c'est la société, mais on sait pas, c'est pas une personne spécifique. Et on ne sait pas si peut-être que dans 2 ans, ça va changer la mentalité ou peut-être que ça va s'empirer. Et moi, on m'a plusieurs fois conseillé, par exemple, de quitter la France, de partir dans un autre pays. Peut-être que je trouverai plus facilement du travail.
Samia, vous êtes très investie dans votre quartier. Vous faites notamment du soutien scolaire. Vous m'emmenez dans le local où vous recevez des jeunes du quartier ?
On y va.
Alors voilà, ici on est dans les locaux de l'association Jeunesse pour le Colombe. Là actuellement il y a cours de physique-chimie justement avec les lycéens. Alors c'est vrai qu'ici je suis un peu leur modèle on va dire, et le fait que justement j'ai un bac plus 5 et que je trouve pas de travail avec, j'ai l'impression en fait, ou c'est une impression mais je pense que c'est même une réalité, qu'en fait je suis pas un bon exemple pour eux et qu'eux ils se disent pourquoi faire de longues études.
Du ressenti à la mesure statistique des discriminations. Nous voici dans les coulisses des opérations de testing en France. Le bureau d'études ISM Corum occupe les 2 premiers étages d'un immeuble du 3e arrondissement de Lyon. C'est ici que la dernière grosse opération de mesure des discriminations à l'embauche, à l'initiative du gouvernement, a été menée. Dans ces locaux ont été conçus des milliers de faux CV et de fausses lettres de motivation envoyées à de grandes entreprises françaises. Activité très discrète, minutieuse, un travail de fourmi méconnu du grand public.
Alors Fabrice Foroni, responsable des testings, les bras chargés de faux CV, c'est ça ? Vous ramenez tout ça sur votre bureau ?
Le plus souvent, on envoie 2 CV sur une même offre.
Là, on est sur votre l'écran d'ordinateur, voilà. La base de candidats fictifs.
Voilà. Et par exemple, sur une offre, on pourra envoyer un CV dont le premier candidat donc, s'appelle Christophe Duhamel et le deuxième s'appelle Hassan Merzougi. Voilà, donc on envoie un signal. Ce deuxième candidat, lui, va préciser en outre qu'il est de nationalité française pour éviter que le recruteur, lui, il anticipe d'éventuels problèmes qui aujourd'hui sont bien réels au niveau administratif dans le recrutement de ressortissants extra-européens. Là, cet argument-là, il tombe complètement parce que c'est vraiment des candidats qui évoquent une origine extra-européenne, et en l'occurrence ici maghrébine, mais qui sont de nationalité française et nés en France.
Et qui ont des CV, on le voit, là, on en a 2 sur votre bureau, différents, mais tout à fait équivalents en termes de cursus et de parcours.
Complètement. On ne pourrait pas envoyer 2 CV complètement identiques, c'est-à-dire 2 photocopies, parce que là, bien sûr, le recruteur pourrait se dire il y a un problème. Il n'y a pas les mêmes identités, mais c'est les mêmes, donc il comprendrait qu'il y a une supercherie. Là, il faut qu'ils soient légèrement différents. Donc on met des petites différences mineures entre les 2 CV, on les envoie à quelques heures de distance. Parce que ça pourrait surprendre un recruteur dans certaines régions ou sur certains postes de recevoir aussi rapidement 2 bons CV. Voilà. Et donc on a besoin de gérer ça sur des bases de données informatiques de grande ampleur, avec les identités qu'on va utiliser, les téléphones, on a plusieurs dizaines de téléphones différents qu'on va mettre dans nos CV, et après qu'on relèvera régulièrement pour relever les réponses des recruteurs.
C'est-à-dire que vous avez des téléphones de candidats fictifs qui sonnent avec des employeurs qui appellent pour fixer des entretiens ?
Voilà, oui, on a 60 de lignes téléphoniques mobiles en permanence. Voilà. Dès qu'on a des propositions de rendez-vous, on veille autant que possible à décommander le rendez-vous. Il ne s'agit en aucun cas de faire perdre du temps au recruteur.
Vous m'emmenez
Je vais vous emmener voir un peu comment ça se passe. Donc on va aller voir une de mes collègues avec laquelle je travaille.
Qu'est-ce que vous faites ?
Tous les matins, j'arrive, je regarde si j'ai des offres d'emploi. Et du coup, mon challenge principal, ça va être de est-ce que j'ai déjà testé cette agence ou cette personne en particulier ? Est-ce que j'ai déjà fait ce poste ? Auquel cas, je vais essayer de le faire dans un autre département pour éviter que nos faux CV soient détectés. Par exemple, il y a une entreprise sur laquelle je postule principalement par mail. Donc là, par exemple, nous allons voir... Donc je vais sur la boîte, la fausse boîte mail que nous avons créée. Alors là, du coup, c'était une candidature qu'on avait fait sur un poste de chargé de recrutement. Un des candidats a reçu une réponse par mail lui disant « Merci pour votre intérêt pour notre entreprise. Je ne vais pas donner de suite favorable à votre candidature. En effet, je recherche un collaborateur qui a une pratique avérée dans les métiers de l'IT. »
C'est-à-dire informatique.
Bon, ben voilà, on enregistre cela. Je vérifie automatiquement si l'autre a reçu une réponse et quel type de réponse. Et là, du coup, j'ai « Bonjour, monsieur X, j'ai bien réceptionné votre candidature et vous en remercie. Je vous propose un échange téléphonique ce jour à 17h30. » Et là, du coup, on voit bien qu'il y a une distinction, même dans le...
Parce que les deux, effectivement, n'avaient pas de compétences en informatique. Celui qui a été refusé évoquait une origine extra-européenne par ses noms et prénoms.
Éric Sédi, vous qui êtes le directeur d'ISM Quorum, votre bureau d'études, il répond à la fois à des entreprises qui vous demandent de tester leur méthode de recrutement, savoir si elles discriminent ou pas, mais il y a aussi les pouvoirs publics qui font appel à vous de temps en temps, et notamment il y a eu cette grosse campagne il y a environ 2 ans qui a donné des résultats assez clairs.
Dans cette opération commandée par le ministère, ce qui était très intéressant, c'est que donc on testait un certain nombre de fois et suffisamment pour avoir des résultats propres à chaque entreprise, un certain nombre d'entreprises, une quarantaine. D'une entreprise à l'autre, même secteur, même métier, on a pu avoir des résultats de risque de discriminer très différents. Bon. Un tiers des 40 entreprises ne passent pas le test. Sans aucun doute, le hasard peut pas produire ça. Sans aucun doute, il y a un biais de sélection dans les recrutements qu'ont fait ces entreprises à travers nos tests. On se rend compte quand même que ce que les gens se disent avoir ressenti subjectivement, ils sont pas en train de fantasmer, quoi. Ce qu'on recueille par enquête de victimation, ça s'appelle comme ça, auprès des concernés sur leur ressenti, ça donne des choses qui sont tout à fait cohérentes avec ce qu'on peut mesurer par ailleurs. Les gens fantasment pas et se plaignent pas pour le plaisir de se plaindre.
Bon. Est-ce qu'il y a eu des mesures sur le critère territoire ?
Oui. Le critère lieu de résidence dans un quartier stigmatisé, oui, ça peut vous désavantager, oui, ça peut vous exposer à des discriminations. Bon. Moins quand même que le seul critère isolé de l'origine ethno-raciale qu'on peut vous supposer. Bon. Et donc, stade suivant, quand on vient d'un quartier stigmatisé et qu'en plus, on peut se faire prêter une origine supposée africaine, nord-africaine et truc, alors c'est là qu'on est le plus exposé au risque discriminatoire, de façon claire.
Interception.
Bonne continuation. Bonne continuation.
Merci beaucoup.
Le magazine de reportage de France Inter.
Le dispositif des emplois francs n'est pas totalement nouveau. Déjà testé de manière plus restrictive en 2013, sous François Hollande, il avait été abandonné un an plus tard, n'ayant donné lieu qu'à 250 contrats signés au total. C'est un coup de pouce financier à tous les employeurs qui recruteront des personnes résidant en quartier prioritaire politique de la ville, cette fois sans condition d'âge ou d'expérience. Une enveloppe de 5 000 euros par an pendant 3 ans pour un CDI et de 2 500 euros pour un CDD de plus de 6 mois, avec comme ambition de gommer des freins comme les discriminations à l'embauche, mais aussi les parcours scolaires chaotiques ou des situations familiales difficiles. Parmi les lieux d'expérimentation de cette nouvelle formule des emplois francs, Angers, dans le Maine-et-Loire.
Bonjour. Allez-y, venez. On va aller se mettre en salle de réunion directement là-haut.
Comme vous voulez.
Ça vous va?
C'est là
impeccable.
Que va se dérouler l'entretien?
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Édouard Nobilet, gérant de la société JCM Solar. Donc moi, je ne fais que de l'installation centrale photovoltaïque. Je suis spécialiste dans ce domaine et notamment sur les installations grosse puissance. Donc sur les installations en général de 36 à 100 kg. Assis-toi.
Quelle est votre situation personnelle à Angers?
Je cherche une entreprise pour travailler et démarrer mon projet professionnel et bien m'en sortir.
Quand est-ce que vous êtes arrivé à Angers?
Je suis arrivé en septembre 2014.
Et qu'est-ce que vous avez fait depuis?
J'étais au lycée, j'étais en première électrotechnique et j'ai passé mon BEP que j'ai eu. Et j'ai passé 2 fois le bac, mais avec les difficultés que j'ai. J'ai difficultés en français, je ne sais pas parler français.
Comment ça se fait que vous avez du mal à parler français?
Parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir des parents qui ont fait de l'école. J'étais dans un environnement à qui les gens ne parlent pas tout le temps le français. J'ai juste été à l'école. On parlait malgache et chinois vrai.
Vous avez grandi à Mayotte, c'est ça?
Oui.
Alors, t'as amené un CV?
Oui.
Ouais, superbe, vas-y. Ok. Alors, ouais, je te remercie. Donc, monsieur Alidi Noufradi. Ok, très bien. Donc, c'est Pôle emploi, moi, qui m'avais envoyé la première fois ton CV. Oui. Par rapport au poste que je recherche. Et puis, j'avais reçu une candidature ensuite. Je crois en direct.
C'était moi, j'ai envoyé par lui.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que j'ai reçu. Alors, explique-moi un petit peu, du coup, ton parcours, ce que tu as fait. Donc, j'ai vu que tu étais CAP, BEP en électrotechnique. Ça t'a plu, ça?
Oui. Ouais. Moi, j'ai commencé mon CAP électricité bâtiment à Mayotte, en alternance. Et je faisais des installations électriques dans des maisons particulières.
D'accord.
Je voulais poursuivre mes études en métropole.
Ok. Moi, j'ai une question avant de continuer. Est-ce que tu as le vertige?
Non.
T'as pas le vertige?
Non.
Bon, ça, c'est déjà bien. Parce que chez moi, on fait que de l'installation de centrales photovoltaïques. Donc l'installation de centrales photovoltaïques, on maîtrise tout, du début jusqu'à la fin. Donc de la pose des panneaux, de la couverture, tirage des câbles jusqu'aux onduleurs et jusqu'au raccordement. Donc sur la partie électricité, la seule différence par rapport à ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que on n'amène pas l'électricité dans la maison, nous on la fait sortir. On est en fort développement, moi quand j'ai créé on était 4, d'accord, j'avais 2 techniciens poseurs, un bureau d'études et moi-même. Alors aujourd'hui on est 12, donc on recherche du monde. Par contre je recherche des gens de confiance, sur qui je peux compter sur du long terme. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse, c'est de former quelqu'un. Parce que, de toute façon, des installateurs photovoltaïques purs, il n'y en a pas, ou très très peu, il n'y a pas d'école de formation. Donc on part sur des profils comme toi en électricien. Mais derrière, on va passer du temps à former. Donc si on mise sur quelqu'un, notamment sur toi par exemple, c'est pas pour que dans 2 ou 3 mois, le candidat, il parte et puis qu'il aille voir ailleurs ou qu'il me dise « bah non, en fait, ça ne me correspond pas ». Donc moi, vraiment, quitte à passer du temps et à former quelqu'un, c'est pour que ça dure. Ok ? Je regarde, je rappelle Madame André. Je te tiens au courant, je te dis pas lundi là, mais lundi semaine d'après, du coup. Okay. Et puis on essaye un stage, on va essayer déjà sur une semaine.
D'accord.
Voir déjà si ça peut te plaire.
Ok.
Oui.
Impeccable.
Je te raccompagne.
Comment s'est passé cet entretien?
Bien, je pense que Noufradi est quelqu'un d'intelligent. Il a, sur son cursus de formation, c'est en adéquation avec les profils qu'on peut rechercher. Il a pas froid aux yeux. Il arrive de Mayotte. Il a l'air d'être bosseur. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est voilà, il est en FJT, à mon plaisir. Il a pas de permis, il a pas de véhicule. Il faut être jeune travailleur. Donc effectivement, il y a des difficultés, mais c'est des jeunes comme ça aussi que moi j'ai besoin. C'est parce que à un moment donné, ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie de faire autre chose.
Si vous l'embauchez, vous l'embaucherez avec un contrat emploi franc, ces nouveaux contrats qui se déploient en ce moment en France?
Oui, c'est par le biais de Pôle emploi qu'il est arrivé chez moi. On m'a présenté ces nouveaux emplois, les emplois francs. Moi, je trouve que l'initiative est très bonne. Comme je disais, il y a des points, il y a des difficultés. Moi, je recherche du monde. Forcément, quand on recherche où? Dans notre réseau. Autour de chez nous et autour des gens qu'on connaît. Mais moi, les gens que je connais, ils sont pas forcément dans des zones et des quartiers en difficulté, avec des jeunes en difficulté. Et il y a des gens qui sont très intéressants, mais dans ces quartiers-là, on les connaît pas et on n'a pas de connaissances. Donc pour aller les chercher, c'est compliqué. Donc qu'on puisse les amener jusqu'à nous, moi, je trouve ça merveilleux.
Qu'est-ce qui compte pour vous dans ce dispositif? C'est d'abord cette mise en relation dont vous parlez avec un public, ou en tout cas des candidats que vous n'auriez pas pu trouver autrement, ou alors c'est cette fameuse subvention de 5 000 euros par an sur 3 ans?
Ouais. Pour moi, la subvention, c'est... Enfin, oui, c'est sûr, c'est bien. Maintenant, ce n'est pas ce qui me fait aller de l'avant. Si ce n'est pas Noufradi, de toute façon, il me faut du personnel. Il m'en faut. Et moi, avant d'avoir le CV de Noufradi, j'ai eu d'autres candidats, mais qui ne correspondaient pas, et j'en ai eu que 4. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs mois que je recherche du monde, je ne trouve personne. On a un vrai problème en France, c'est qu'il n'y a pas de chômeurs. Ou alors, ils n'ont pas envie de travailler. Et ceux qui ont envie de travailler, malheureusement, on ne nous les envoie pas.
C'est-à-dire que vous dites que c'est des profils de candidats qui ont des atouts méconnus, c'est ça? En tout cas, une personnalité, une motivation, etc., qui est peut-être différente d'autres profils de candidats?
Oui, parce que les autres profils de candidats, soit ils sont déjà en poste, ou soit ils pensent qu'ils valent plus que les autres. Malheureusement, j'ai été confronté à ça, moi, sur les différents entretiens que j'ai passés. Et ce qu'il y a, c'est que moi, effectivement, je disais, j'ai pas forcément les capacités d'aller chercher aux bons endroits, mais eux, c'est pareil. Si je prends Noufradi ou Mehdi qui est déjà chez moi, c'est pas des jeunes qui vont venir pousser la porte de chez moi en disant, bah tiens, moi, je cherche du travail. Donc,
pourquoi
je pense qu'en fait, ils osent pas. Ils ont peur, en fait, de se confronter. Ils ont peut-être été déjà confrontés à ça, mais à un non, à un refus, à l'échec. Ce qui fait que ils viennent pas non plus pousser la porte en disant... Tiens, moi, je recherche du travail, j'ai ça de formation, l'énergie renouvelable, ça m'intéresse. J'ai pas ce profil-là, jamais.
h du matin, devant l'agence Pôle emploi du quartier de Montplaisir à Angers, agence qui n'est pas encore ouverte, mais il y a déjà 2 personnes qui attendent devant la porte.
J'ai perdu mon emploi il y a une semaine. Et je travaillais dans une société grossiste alimentaire.
Vous avez quel âge ?
Je vais avoir 46 ans. Vous savez, les employeurs sont très sélectifs. Hein. Les quartiers prioritaires, etc., les employeurs, ça les rebute. Et puis, il y a des gens qui cherchent du travail qu'on ne trouve pas. Et puis, quand ils arrivent, ils n'ont pas l'expérience. Ça fait des années qu'ils sont au chômage. C'est pas facile, aussi bien pour l'employeur que pour la personne qui vient pour l'entretien. Quand on n'a rien à mettre sur un CV ou très peu de choses... Et puis, combien d'un quartier prioritaire, ça peut rebuter un petit peu.
Le code postal compte, vous pensez, pour une candidature ?
Je pense plutôt la rue, puisque les employeurs, maintenant, regardent où on habite. Hein. Et puis, il n'y a pas de honte d'habiter dans un quartier prioritaire. Hein. Je suis désolée, je vais vous laisser. C'est très gentil.
Vous avez votre rendez-vous ?
Non, mais je voudrais quand même aller pour mes papiers. C'est très important pour moi. Je vous souhaite une bonne journée.
À vous aussi.
Merci. Au revoir, monsieur.
La porte de l'agence vient d'ouvrir. Et tout le monde rentre. Deux personnes qui étaient là un petit peu avant sont déjà au guichet.
Vous voulez pas acheter une maison ?
Si, je veux bien.
Il y en a plein avant. En plus, ils embauchent à tant d'arigots dans les agences immobilières.
Ah, c'est juste pour moi, ça serait merveilleux.
Bah si, ils embauchent plein. J'entendais ce matin à la radio. Là, ils embauchent 1000 personnes chez OK. Tout le monde embauche. Ah oui ?
Sabrina Lalou, directrice de l'agence Pôle emploi Angers Europe. Donc une agence qui est sur un bassin, le bassin d'Angers, qui comprend en fait 4 agences sur ce bassin.
Vous avez dû en voir passer beaucoup des dispositifs incitatifs pour les profils quartiers prioritaires. Celui-là, il a quoi de vraiment nouveau ?
Alors celui-là, il a quoi de vraiment nouveau ? Il est, je dirais, assez ouvert. À partir du moment où l'entreprise est du secteur marchand, qu'elle recrute une personne habitant les quartiers prioritaires, on ne se préoccupe de rien d'autre. On ne vient pas empiler des critères. Et souvent, dans les dispositifs, ce qui parfois nous a un petit peu anéanti, c'est le fait de cumuler des critères.
Là, l'âge, par exemple.
Alors des critères d'âge, hein, en œuvrant beaucoup plus auprès des jeunes, auprès des seniors, des critères de statut. C'est-à-dire ceux qui sont plutôt sur les minima sociaux, des critères de demande d'emploi de longue durée. Le cumul de critères fait que, généralement, ça complexifie beaucoup le système, et pour le demandeur d'emploi, et pour nous, et pour l'employeur. Là, je pense que le message ne peut pas être plus clair.
Cette ouverture, est-ce qu'elle risque pas, finalement, de favoriser ceux qui auraient peut-être déjà été embauchés par ces entreprises ?
L'idée, c'est pas de permettre de faire rebondir quelqu'un, un demandeur d'emploi, qui a les moyens de rebondir indépendamment de ce dispositif. C'est vraiment de s'orienter vers ce public qui, sans ce dispositif, n'arrive pas à retourner à l'emploi, ou dans tous les cas, à l'emploi de façon durable. On a aujourd'hui, sur le bassin d'Angers, 5267 demandeurs d'emploi qui habitent les quartiers prioritaires de la ville. Donc finalement, sur 2 agences par rapport aux 4 présentes sur le bassin d'Angers. Ce qu'on observe aussi, c'est que c'est un public qui est majoritairement âgé de 26 à 49 ans, et c'est typiquement la tranche d'âge pour lesquelles les dispositifs jeunes et les dispositifs seniors ne les concernent pas. C'est un public qui est plutôt féminin, Et c'est un public qui a 65% à un niveau 5 ou infra 5. Donc 5, infra 5 pour votre éclairage, c'est maximum CAP, BEP obtenu. L'idée avec ce dispositif, c'est aussi de permettre de gommer ces inégalités. À un moment, de vraiment revenir exclusivement sur la compétence, la qualité professionnelle, le besoin de l'employeur. Et du coup, l'emploi franc, pour moi, ça demande de l'ouverture, hein, à la fois par rapport au public, hein, mais aussi par rapport à l'entreprise, de réduire ses critères. L'idée, c'est ça. C'est à un moment, de faire en sorte que chacun prenne l'ouverture nécessaire pour pouvoir à un moment rencontrer talents et besoins de l'employeur sur le territoire.
Jamel Blanchard de l'association des jeunes de la Roseraie et membre du collectif du syndicat de quartier Passons-nous.
Voilà, du syndicat de quartier Passons-nous 49 aussi localement et puis membre effectivement de la coordination nationale Passons-nous. Bienvenue à la Roseraie, quartier populaire de la Roseraie. Voilà, donc c'est là où je vis depuis 25 ans et là où j'y suis bien. On aurait au centre du quartier par exemple jusqu'à 43% de chômage. Alors que paradoxalement, on a juste à côté la zone Orgemont ou qui concentre presque 12% de, un peu plus de 12% des emplois sur Angers, ce qui est énorme. Et paradoxalement, justement, les habitants du quartier n'en profitent pas. Enfin, je connais très peu d'habitants qui habitent, à part dans quelques usines qu'on a ici à l'extérieur, qui ne sont pas très loin à proximité et qui embauchent des habitants du quartier. Malgré tout, ça reste faible, alors qu'on devrait avoir une corrélation. Il n'y a pas beaucoup d'habitants qui y travaillent, alors qu'on aurait pu penser à peut-être faire en sorte, pour ceux qui le voulaient bien sûr, parce que ça doit rester quelque chose de volontaire, pouvoir adapter peut-être certaines formations pour que des gens puissent être accueillis justement à la zone d'Orgemont qui est juste à proximité. 12% c'est pas rien, plus de 12% des emplois c'est pas rien. Et il n'y a jamais eu cette corrélation qui a été faite, alors qu'on y pensait nous déjà en 2000.
Valeuf, ça va ? Allez, viens. Viens, on se met là, tranquillement.
Vous filmez ?
Non, c'est pas un film, c'est la radio.
Actuellement, je suis aux assédiques, moi. J'ai fini le travail il n'y a pas longtemps.
Vous êtes dans quelle branche ?
Moi, je travaille en médiation, à la régie. Régie de quartier. Je sais pas, moi, je trouve que les jeunes comme nous, on a beaucoup plus de mal à trouver d'emploi que d'autres personnes.
C'est-à-dire des jeunes comme nous ?
Des jeunes de quartier, des jeunes maghrébins, des jeunes noirs.
Comment vous le ressentez, ça ? Vous envoyez des candidatures ?
On envoie des candidatures, on va aux intérims, bien sûr, madame. On fait comme tout le monde. On fait comme tout le monde. Mais sauf que pour nous, ça ne marche pas.
Merci.
De rien.
C'est bon ?
Merci.
De la même manière que le quartier de la Roseraie est entouré de zones d'activité, ceux de Montplaisir ou Belle-Bay, toujours à Angers, sont également voisins de gros bassins d'emploi. Certains en zones franches, conçues pour inciter justement les entrepreneurs à s'installer et à recruter à proximité. L'expérience s'est avérée inefficace. Cette fois, ce sont donc les candidats recrutés qui devront habiter un quartier prioritaire. L'idée est cohérente, mais attention au risque d'effet d'aubaine pour les entreprises, avertit Antoine Lelarge, secrétaire général de la CFDT Maine-et-Loire.
Pour nous, la question des emplois francs, elle est l'occasion de reparler cette question de la discrimination, puisque la cible, c'est les chercheurs d'emploi qui sont dans ces quartiers, qui sont plus discriminés que les autres, qui ont un taux de chômage plus fort que les autres. Et donc, du coup, de reparler de cette question à cette occasion, en disant aussi aux recruteurs, changer vos méthodes de recrutement. Peut-être que la question du recrutement par le CV avec... en France, on aime bien la question du diplôme. Voilà, il faut d'ailleurs... On a beaucoup de recruteurs à qui on dit « Mais vous voulez qu'ils soient jeunes, qu'ils ne coûtent pas trop cher, qu'ils aient un niveau de diplôme élevé et un niveau de qualification élevé, qu'ils aient une expérience réussie en entreprise. » En gros, on cherche le mouton à cinq pattes. Et de dire, là vous avez, avec les emplois francs, une aide qui peut être l'opportunité pour dire, on prend peut-être un petit peu plus de risques, mais justement avec cette aide, on peut déployer un accompagnement, une formation, pour que justement cette insertion professionnelle soit réussie.
Alors, ces emplois francs, ils portent cette idée-là, ce principe-là, ou c'est vous qui souhaitez que, justement, on parle de recrutement à cette occasion-là, à l'occasion des emplois francs?
Ben, moi, j'ai pas entendu dans la bouche du gouvernement cet aspect-là, parce que si on lance la question des emplois francs sans parler de la question de la discrimination à l'embauche et comment est-ce qu'on peut lever les freins à l'embauche, on réglera pas le problème avec les emplois francs.
Et alors, comment concrètement on recrute différemment?
Alors, il y a des méthodes qui sont assez peu employées encore, mais dans d'autres pays, c'est très répandu. Pôle emploi est en train de plus en plus de le déployer, mais c'est par exemple un outil comme la méthode de recrutement par simulation qui permet à des employeurs de dire « Ok, je vais pas recruter par la question du CV et donc du niveau de diplôme, mais je vais chercher plutôt des compétences transversales. Est-ce que je suis rigoureux? Est-ce que je suis ponctuel? Est-ce que je suis mobile ?» Enfin, etc. Et donc, en tout cas, de mettre en situation des chercheurs d'emploi qui n'ont pas forcément la qualification recherchée, mais qui sont en capacité, justement, de se former en interne et d'apprendre ce qu'on demande comme métier à ces personnes-là, à ces nouveaux salariés. On change un peu le regard qu'on a par rapport au recrutement, sans chercher, ce que je disais tout à l'heure, le mouton à cinq pattes. On a des entreprises sur le territoire qui nous font pas loin d'une annonce médiatique par semaine. Quand on va interroger un peu leur méthode de recrutement, on s'aperçoit que pour être recruté, il faut faire 5 entretiens de recrutement, alors qu'on est sur un emploi d'ouvrier non qualifié, qu'une fois qu'on a été rejeté sur une première candidature, même si on a une nouvelle expérience professionnelle, même si on a eu une action de formation réussie, eh bien on ne peut pas repostuler dans cette même entreprise. Alors voilà, on a envie de dire aux employeurs, changez vos méthodes de recrutement, changez vos manières de regarder l'approche que vous avez de vos recherches de nouveaux salariés.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Et les coques.
Ah, 2 coques de chasu.
Vous n'aimez pas les coques? Sur les pieds? Vous voulez pas ça? Vous restez dans les allées, hein, vous me promettez.
Karine Dégage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la DRH de Scania, fabricant de poids lourds. 38 hectares de sites, vous êtes l'un des plus gros employeurs du secteur?
On fait partie, oui, des plus gros employeurs sur le terrain d'Angers.
Combien de salariés?
650, et puis en ce moment, on a des intérimaires. Donc on a à peu près 1000 sur le site en ce moment.
Et vous recrutez?
Et en ce moment, on recrute beaucoup sur des profils de l'assembleur-monteur ou de magasinier-cariste. Donc là, j'ai 60 recrutements en cours. Je ne suis pas sûre que les emplois francs, ce dispositif-là, va réussir à capter des chômeurs de longue durée et les attirer vers l'emploi. On ne prendra pas une prime pour aller chercher un chômeur de longue durée par rapport à quelqu'un qui a envie, qui a les compétences, juste pour la prime. Donc c'est là où ça ne marchera pas. Parce qu'on produit des biens complexes et qu'on ne fera pas de compromis sur les compétences qui vont permettre de faire un assemblage qualité, parce que quand on produit un camion, on a des vies entre les mains. Il n'est pas question qu'un camion mal assemblé tombe en panne, puisse générer un accident, parce qu'on aura fait des compromis sur les compétences, parce qu'on prendra une personne, parce qu'il y a une prime au bout. La question ne se posera pas dans ces termes-là.
En tant que DRH, ça ne vous pose pas question, ce vivier d'emplois, ou en tout cas de candidats, dans les quartiers juste à côté de votre entreprise, et le fait que vous ayez du mal à recruter alors même que vous avez des besoins?
Si, si, et tout à fait, ça nous interpelle, et donc je crois qu'on n'arrive tous pas à résoudre cette question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette distance? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à intégrer ces populations-là, alors que même on va dans les pôles emploi de ces endroits-là? On n'a pas la réponse, à part une distanciation qui se fait vis-à-vis de l'emploi, et on sait que c'est très dur de remettre un pied à l'étrier avec un rythme. Il faut se lever tous les matins à la même heure.
Donc les emplois francs n'inciteront pas plus ces candidats-là à pousser votre porte, est-ce que vous dites?
C'est ma crainte. Je pense que ça pourra peut-être nous servir sur certains profils qui peuvent être peut-être des profils où il y a beaucoup de monde, avec des jeunes qui viennent plutôt des cités mais qui sont diplômés et qui sont dans des périodes de chômage. Et donc on va les recruter par rapport à leur CV évidemment et par rapport aux compétences qu'ils ont pu mettre en œuvre. Et là, dans ce cas-là, on pourra en bénéficier. Sur des métiers d'assembleur-monteur, de magasinier-cariste, je pense que ça ne colle pas à la réalité du terrain aujourd'hui, où la recherche d'emploi se fait déjà dans ces zones-là. Il y a juste à pousser la porte de Pôle emploi et de dire « moi je suis motivée, j'ai envie de travailler » pour que les choses se déclenchent.
La quasi-totalité de la Seine-Saint-Denis est concernée par l'expérimentation de cette nouvelle formule des emplois francs, sachant que la moitié du département est classée quartier prioritaire politique de la ville. À la mission locale de Bondy, des plans banlieue et des mesures incitatives, on en a vu passer beaucoup. Chaque opportunité donnée aux jeunes inscrits de trouver un emploi est saisie, mais sans un travail sur la confiance en soi et la motivation, les démarches sont souvent inefficaces.
Aujourd'hui, autour de la table, qui a dit « j'ai pas été pris parce que l'employeur, il m'aimait pas ».
Ce matin, atelier collectif de développement personnel.
Parce que l'employeur, il pensait que je venais du 93, donc il m'a pas pris. L'employeur, il a dit parce que je suis noir, blanc, rouge, vert, marron, etc. Donc il m'a pas pris. Qui l'a déjà dit au moins une fois dans sa vie ?
Mais c'est souvent comme ça, c'est la réalité. Hein.
D'accord, ok, pas de souci. Là, je prends ton avis. C'est souvent ça, c'est la réalité, pas de problème. Qui d'autre l'a déjà dit ? Personne.
Moi, j'ai déjà dit beaucoup. Oh, mais non, c'est vrai. Là,
autour de la table, il y en a qui ne l'ont jamais dit ? Ok, on est d'accord. Donc, tous autour de la table, au moins dans sa vie, a déjà pensé que. Parce qu'on n'a pas été pris, finalement, c'est lié à des choses extérieures qui font que la personne ne nous a pas pris. Je vais vous poser une question. De quoi on parle depuis tout à l'heure ? Vers qui on doit se recentrer à chaque fois ?
Sur nous-mêmes.
Donc, à partir du moment où dans sa tête, on se dit que finalement, c'est nous qui n'avons pas fait les choses correctement pour arriver à l'aboutissement final de ce qu'on souhaiterait faire, ces choses-là ne doivent pas exister, même s'ils existent à la marge. De plus en plus, les recruteurs et les entreprises recrutent sur des valeurs. Mais si demain, moi, je recherche quelqu'un qui a cette valeur, mais quand je passe un entretien, enfin, je ne suis pas en capacité de pouvoir mettre en avant cette valeur-là, comment derrière, je peux faire passer le message au recruteur que je suis la meilleure des personnes ? Posez-vous une question. Demain, vous postulez à un entretien. Le recruteur qui va récupérer les CV. Donc, il va prendre tous les CV et il va retenir ceux qui, pour lui, sont en capacité de pouvoir maîtriser le poste. Donc, finalement, quand vous arrivez en face du recruteur, vous êtes tous logés à la même enseigne.
En fait, ça veut dire que déjà, avant même d'arriver, on l'a déjà interpellé.
Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que la personne, elle a bien vu que vous habitez là, dans cet endroit. De par votre nom, votre prénom, elle sait qu'il y a une connotation. C'est facile à voir. Mais donc, elle vous a recruté, ou du moins, elle a estimé que vous êtes en mesure de pouvoir passer un entretien parce que vous en avez les compétences, parce que vous avez les diplômes. Donc, derrière, comment vous pouvez justifier que le fait que vous ne soyez pas pris est uniquement lié au fait que vous êtes mauvais ? Ça va ? Je vous ai pas perdu ? Vous commencez pas à pleurer ?
Non,
pas du tout. Ça va ? Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Est-ce que vous avez des... Non ? Ça va ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va stopper. On va faire la pause. D'accord ? Et on se retrouve à 40, okay. Ici. Okay. Pour la suite de l'atelier. Ça vous va ?
À tout à l'heure. Ah, je vais
Interception sur France Inter.
Vous vous appelez comment ?
Linda.
Alors racontez-moi ce que vous avez retenu de cette matinée en groupe.
Déjà pour pouvoir évoluer, il faut savoir qui on est. Bah là, ça, c'est une remise en question. Je dis ah oui, et en fait avant de se dire oui, je veux faire ci, ça, 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 est-ce que moi-même j'en suis capable et où j'en suis moi-même avant de vouloir me projeter autant.
C'est pas évident de savoir qui on est.
Bah non, en fait c'est pas évident. En fait on a notre culture, on a nos valeurs et nos principes du fait de l'environnement, le cadre où on a grandi. Mais après savoir qui on est, c'est différent parce que par exemple quand on sort, on va sur Paris, on passe des entretiens et on arrive, on est complètement dépaysé, on n'est pas dans le même on va dire pas dans la même ambiance qu'on a l'habitude d'être. Et bah là, on se remet en question, on se dit tout de suite, mais je comprends pas. Moi aussi, j'habite en banlieue parisienne, mais pourtant, quand j'arrive sur Paris, j'ai carrément l'impression de même pas être dans le même univers. Donc c'est pour ça que c'est bien de savoir déjà qui on est, savoir s'affirmer nous-mêmes pour pouvoir ensuite s'affirmer devant les gens et les autres.
Et vous vous dites que vous avez autant de chances que d'autres candidats, d'autres candidates. Là, il y avait la question de... on s'est tous dit que parce qu'on habite la Seine-Saint-Denis ou parce qu'on porte tel nom, on va avoir des préjugés d'employeurs, des choses comme ça. C'est des choses que vous vous êtes déjà dit ou pas?
Bah, en fait, moi, franchement, si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit oui. Mais là, aujourd'hui, j'aurais dit, oui, c'est normal, j'arrive, on voit sur mon CV, Bondy, 93. En plus de ça, j'arrive, j'ai un signe religieux.
C'est-à-dire
Je suis voilée, je porte le voile. Et du coup, je me dis tout de suite, on va me juger, on va me dire... j'y vais avec une crainte. Sauf que
ça, c'est ce que vous vous disiez avant, c'est ça?
Sauf qu'aujourd'hui... Et ça, c'est ce que je disais avant d'avoir même... J'avais jamais postulé. J'étais encore à la fac. J'avais pas encore trouvé d'emploi, mais j'avais cette appréhension-là. Et quand j'ai commencé à travailler, il y a un an, depuis l'année dernière, je me suis rendu compte que pas du tout. Pas du tout. Il y a encore des cas spécifiques, mais c'est pas une généralité.
C'est-à-dire qu'il y a encore des cas spécifiques.
Il y a encore des cas où, par exemple, quand je faisais des entretiens pour des écoles, parce qu'avant de travailler à la base, j'ai toujours voulu reprendre mes études, et j'ai été confrontée à des... Comment formuler ça? Par exemple, j'ai déjà postulé pour des écoles ou des travails où on m'a jamais... La question du voile, elle s'est pas posée. J'ai juste une petite réflexion à la fin. Est-ce que ça vous dérangerait de l'enlever, etc. Où je disais non. Et par contre, j'ai eu un ou deux entretiens dans des écoles où, d'entrée de jeu, la personne en face de moi, elle me dira, ah oui, mais par contre, ce que vous portez sur la tête, ça va pas être possible. De manière un peu agressive. Et là, tout de suite, ça refroidit, quoi. C'est pour ça que je disais, il y a toujours des petites exceptions, mais en général... C'est faux, c'est pas... Sur 45 entretiens, il n'y a pas 44 entretiens où on va nous pointer du doigt, quoi.
Mais il y en a une partie.
Je parle en connaissance de cause. Je l'ai vécu. Je dis pas ça dans le vent.
Bonjour, je suis Samir Arich. Je suis directeur de la mission locale de Bondy en Seine-Saint-Denis. Ça, c'est tous les projets. Tous nos projets, donc ça c'est, on va dire, c'est toutes nos actions, mais je garde pas une collection des, mais il y en a eu beaucoup et il y en aura encore beaucoup, je pense.
C'est... Si vous devez remonter un peu le fil de tous les dispositifs emploi jeunes banlieue, vous en avez pas mal en tête?
Ouais, moi ça fait 17 ans ou 18 ans que je suis dans l'insertion, j'en ai connu quand même pas mal. Mais j'ai le sentiment, en fait, compte que on va pas pouvoir continuer indéfiniment à se dire que la temporalité, c'est une temporalité politique. Une mesure chasse l'autre, et donc on a même, des fois, même pas le temps de vérifier qu'une expérimentation, elle a réussi ou pas, on la change, parce que c'est dogmatique. J'ai l'air d'être un peu négatif comme ça, mais je pense que des constats aussi structurels méritent des réponses structurelles et durables. Sur les contrats aidés, il y a des entreprises qui nous ont suivis, puis à un moment donné, ça s'est arrêté, alors que ça aurait dû se poursuivre au moins sur un renouvellement. Et puis tout d'un coup, on leur a dit, non, c'est pas possible. Et il a fallu expliquer que non, finalement, on change.
Au-delà des moyens compris dans un dispositif ou un autre, les moyens, de manière générale, d'une structure comme la mission locale de Bondy, ils en sont où?
Il y a de plus en plus d'exigences sur des actions ou sur des dispositifs. Donc les financements, ils sont de plus en plus fléchés. On est de plus en plus soumis à un financement qui est lié à une action particulière. Ça devient très difficile de gérer nos structures, puisqu'effectivement, du jour au lendemain, puisque c'est des actions spécifiques et qu'il ne s'agit pas de fonctionnement, ça peut s'arrêter. Du jour au lendemain, on a perdu le financement de l'accompagnement des emplois d'avenir, par exemple, ou des contrats aidés.
Vous vous sentez affaibli aujourd'hui?
Bien sûr que nous sommes affaiblis. Au lieu de nous donner les moyens de fonctionner, on nous donne les moyens de réaliser des actions. Si on ne veut pas donner des moyens structurels pour régler un problème structurel, on n'y arrivera pas. Et là, je pense que c'est de mon bas retardement. Ça veut dire que je pense que ça peut donner lieu à des décisions irrationnelles, mais qui seront jugées utiles, nécessaires par ces jeunes. C'est-à-dire, si je ne peux pas faire les choses en bonne et due forme, pourquoi pas les faire de façon peut-être illégale. Je pense que ce n'est pas de nature à améliorer finalement la vie de la cité. Vivre ensemble, ça doit être aussi possible. c'est pas vivre juste les uns à côté des autres avec un système, on va dire, normal et puis un système parallèle. Le système parallèle, de toute manière, c'est jamais vraiment un choix. C'est un non-choix. C'est j'ai pas pu faire autrement, alors j'ai fait ça. Et si j'ai pu faire ça par facilité, c'est que quelque part, l'alternative, elle n'existait pas.
À lundi.
Au revoir.
Gislain, qui est à lundi? Au revoir.
Quartier sensible, le fardeau du CV. Claire Chaudière a signé ce reportage. Yann Frécy en a assuré la prise de son. Réalisation Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe. Mixage Rémi Quincé. Ce reportage, et comme tous les autres d'ailleurs, est disponible à la réécoute sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. À la semaine prochaine.